seuls les livres des apôtres désignés par Jésus-Christ, donc les 12 apôtres et l'apôtre Paul, les 12 étaient apôtres pour Israël, les 12 tribus, et Paul était apôtre pour les non-juifs. Seuls les livres des apôtres désignés par Jésus-Christ et par les prophètes reconnus par eux, vous voyez, Marc et Luc n'étaient pas des apôtres, mais ils étaient des prophètes reconnus par ces apôtres. Seuls les livres des apôtres désignés par Jésus-Christ et par les prophètes reconnus par eux appartiennent au Nouveau Testament. Donc, comment l'Église primitive a pu savoir quels sont les livres qui sont inspirés de Dieu? Eh bien, l'apôtre Paul enseigne, au nom de Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 20, que l'Église, l'ensemble des croyants en Jésus-Christ, comme sauveur personnel, est édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes. Donc le fondement de la foi chrétienne ne peut se baser que sur l'enseignement des apôtres et des prophètes qu'ils ont reconnus. Et voilà pourquoi l'Église primitive a rejeté tous les livres qui ont été écrits par d'autres écrivains, et d'ailleurs souvent sous un faux nom. Par exemple, l'Évangile selon Thomas, c'est un évangile, c'est un écrit gnostique d'une secte d'Égypte, écrit vers 140 après Jésus-Christ. Eh bien, c'est clair, c'était un fraude. Ce n'était pas Thomas qui a écrit, parce que le dernier apôtre est mort vers 100 après Jésus-Christ, c'était Jean, pas Thomas. Donc, un fraude. Et l'Église n'a pas reconnu ce livre. Il y a une apocalypse de Pierre, mais ce n'est pas Pierre qui a écrit. Donc, on a tant de livres qui ont été écrits au 2e, 3e siècle. Mais ce qui est remarquable, c'est que l'Église n'a pas été trompée par un seul faux livre. Et les 27 qui sont reconnus sont effectivement, et nous avons là les témoignages historiques, écrits par les apôtres, donc par des témoins oculaires du 1er siècle, et des prophètes qui étaient reconnus par eux comme Jacques, Jude, Marc et Luc. C'est remarquable, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il y a des gens, n'est-ce pas, qui disent « Ah, maintenant je sais la vérité sur le christianisme. » Et ils lisent donc des livres qui ont été écrits au 2e, 3e, 4e siècle comme fraude. Je fais allusion, n'est-ce pas, à ce film et le livre sur le code de Da Vinci. Maintenant, je lis les versets concernant la naissance de Christ sous César Auguste, Luc 2. Or, il arriva en ces jours-là qu'un décret fut répandu de la part de César Auguste, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée. Verset 3. Et tous allaient pour être enregistrés, chacun en sa propre ville. Et Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, dans la ville de David, qui est appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, la femme qui lui était fiancée, laquelle était enceinte. Vous voyez, il y a des gens qui disent, la Bible, oui, c'est un beau livre, plein de légendes et de mythes. Mais lisez une fois cette histoire. Quand vous lisez des contes de fées, vous ne lisez pas que cette histoire a eu lieu sous tel et tel roi de l'histoire. N'est-ce pas? Il était une fois, mais on ne sait pas quand. Et on ne sait pas où. Et voilà, la Bible commence, c'était à l'époque de César Auguste. N'est-ce pas? L'histoire nous explique. Il a régné depuis 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 14 après Jésus-Christ. Sous ce règne, Jésus-Christ a été né. Nous lisons de Joseph, de la ville de Nazareth, qui est allé à Bethléem avec Marie. Donc des lieux précis. Ces histoires n'ont pas le trait de mythe ou de conte de fées. Et vous voyez, on sait même exactement comment était l'apparence de César Auguste. Il est mentionné là dans le texte biblique. Ensuite, je lis du message de Noël en Matthieu 2, verset 2, où les mages de l'Orient viennent, qui demandent à Jérusalem, où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Eh bien, la Bible dit que plus tard, le roi Hérode a commis un massacre d'enfants dans la région de Bethléem, lorsqu'il a entendu le roi des Juifs a été mis au monde et est né. Alors là, il y a déjà une chose remarquable. Lorsqu'on connaît l'histoire et les anciens écrits de l'Antiquité, alors on sait que c'était le Sénat de Rome qui avait donné ce titre « roi de Juifs, des Juifs » à Hérode. Hérode n'était pas un Juif, c'était un Édomite du sud de la Jordanie. Et les Romains l'ont mis comme roi sur les Juifs et il a reçu ce titre « le roi des Juifs ». Jamais dans l'Ancien Testament, en rapport avec les rois de Jérusalem, on trouve ce titre « roi des Juifs », seulement ici. Et vous voyez maintenant, les mages viennent de la Perse. Le terme « mage », « magoi » en grec, c'est un terme perse. Ils viennent de la Perse et ils demandent « où est le roi des Juifs qui a été mis au monde ?» Non pas qui a été appelé par le Sénat de Rome, mais qui est né comme roi des Juifs. Vous voyez que Hérode, duquel nous savons qu'il était tellement attaché à son pouvoir, il était troublé. Ensuite, il a massacré les enfants de Bethléem. Matthieu 2, verset 14. Et lui, s'étant levé, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Donc, juste avant ce massacre d'Hérode, Joseph a pris le bébé et Marie, la mère, et sont allés en Égypte. Voilà le roi d'Hérode dans l'archéologie. On a trouvé plusieurs palais du roi Hérode. Ici, nous sommes à Massada. Vous voyez ce rocher immense, donc cette montagne de rochers immenses au sud de la mer Morte, au désert de la Judée. Ici, sur cette montagne qui a une hauteur de 400 mètres à peu près, il a installé un palais de sécurité pour lui. Humainement, c'était impossible de conquérir Massada. Et pourquoi il a fait tout cela? Pour se sentir un peu plus sûr. Parce qu'il avait toujours peur qu'on lui enlève son pouvoir. Et pour cela, il était prêt à tuer une fois toute la cour suprême d'Israël. Donc 70 hommes, il a tué. Il avait 10 femmes. Et la femme qu'il aimait le plus était Myriam. Deux. Il avait deux Myriam. Et vous voyez, un jour, il craignait que sa femme pouvait être un danger pour son pouvoir. Il l'a tué. Il a aussi tué dans sa propre famille. César Auguste a dit une fois, il est mieux d'être le cochon d'Hérode que son fils. C'était un mot, un jeu de mots en grec, parce que huios et us, fils ou cochon, s'écrit presque de la même façon en grec. Et vous voyez, des cochons, on ne tue pas en Israël. C'était impur. Donc c'était plus sûr, c'était mieux d'être un cochon d'Hérode que son fils. Vous voyez ici, là, à cette place, Hérode avait construit son palais à Massada. Il y a quelques semaines, de nouveau, j'étais avec un groupe de 50 personnes ici à Massada et je les ai amenés à la salle du bain d'Hérode, du roi d'Hérode. Et j'ai dit, vous savez, il n'y a pas de fossé effrayant, affreux entre nous et les événements bibliques. Nous sommes là dans la salle de bain du roi d'Hérode. Moi, je n'ai jamais été dans la salle de bain de M. Chirac, mais j'étais dans la salle de bain du roi Hérode. C'est fantastique, n'est-ce pas? Hérode avait aussi un palais ici au Hérodion, près de Bethléem, aussi dans le désert. Vous voyez, ce n'était pas un volcan. C'était une colline, comme vous avez 1000 collines dans le désert. mais par des milliers d'esclaves, il a fait agrandir cette montagne jusqu'à ce qu'elle avait l'apparence d'un volcan. Et là-dedans, il a fait construire un palais de sécurité. Il a été mis dans un tombeau ici, à cet emplacement. Voilà encore un reste d'un palais du roi Hérode à Jérusalem. Vous voyez ici la tour de Hippicus, qui était la plus belle tour de son palais, vers la porte Jaffa, à la vieille ville de Jérusalem. C'est donc le grand symbole du palais de Hérode à Jérusalem. Et les Romains, à l'an 70, ont détruit toute la ville de Jérusalem, mais ils ont laissé cette tour. C'est pour ça qu'on peut toujours la voir. Et voilà, c'est le lieu où les astronomes perses cherchèrent le roi des Juifs. Donc on sait même exactement où ça s'est passé, Matthieu 2. Et puisqu'on leur a expliqué ensuite que le Messie doit être né à Bethléem, ils sont descendus, et je peux vous montrer le chemin direct depuis la porte de Jaffa à Bethléem. Alors vous pouvez même aller sur les traces des mages. Il n'y a pas de fossé. Là, vous voyez une reconstruction des trois tours du palais d'Hérode, et la plus belle est la tour d'Hippicus. Jésus-Christ est donc né à Bethléem. Il a vécu jusqu'à 30 ans, ensuite à Nazareth, après quelques temps en Égypte, hein. Et à 30 ans, il a commencé à publiquement prêcher l'Évangile. Et en Luc, dans l'Évangile de Luc, chapitre 3, nous lisons « Or, en la 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée. » Et là, il parle de Jean-Baptiste qui introduit Jésus-Christ comme le Messie. Et voilà le début de la prédication de Christ. Vous voyez, c'est de nouveau pas ce qui est typique pour les contes de fées. Luc explique, c'était en la 15e année du règne de Tibère César. Eh bien, nous savons, Tibère a régné depuis 14 après Jésus-Christ jusqu'à 37. Donc, 15e année, c'est 29 après Jésus-Christ. Et Ponce Pilate était à cette époque gouverneur de la Judée. Et par l'histoire, nous savons, effectivement, il était de 26 à 36 après Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça joue la datation biblique. Là, Jésus-Christ est parti de Nazareth pour habiter à Capernaüm, pour prêcher ensuite dans tout le pays. Donc, Capernaüm était la nouvelle ville où il habitait. Capernaüm, en hébreu, Kfar Nahum, veut dire village du consolateur ou village de la consolation. Et effectivement, Jésus-Christ a apporté un message de consolation. Matthieu 4, 13. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, qui est au bord de la mer, sur les confins de Zaboulon et de Nephtali. Et maintenant nous allons à Capernaüm. Vous voyez ici la découverte archéologique de la synagogue de Capernaüm. Cette synagogue, que vous voyez là, date du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas la synagogue de Jésus-Christ. Mais elle est bâtie sur un fondement de basalte. Vous voyez les pierres noires ici en bas. Et ce fondement est le fondement de la synagogue du 1er siècle. Donc, voici le sol du 1er siècle. Ici, Jésus-Christ a prêché à Capernaüm. Il n'y a pas de fossé affreux qui nous sépare des événements bibliques. Nous pouvons aller sur les traces de Jésus-Christ